bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Pierre Jabot, assisté de Karen Day, avec à la technique aujourd'hui, Florent Layani et Raphaël Rousseau.
Au sommaire aujourd'hui, pas de quartier dans les beaux quartiers et Uber, le partage ou la prédation.
On est attaqué par la concurrence déloyale Uber.
Le 16e sera peut-être le fer de lance de la révolte à Paris et ailleurs.
Comme un toile noir est tombé sur nous, il nous bouffe à l'intérieur.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, que rien ne va plus. Alors que la gauche de gouvernement assume son coming out de droite, alors que malgré les coups de matraque en AG, les jeunes précaires continuent à se mobiliser, des moins jeunes et pas du tout précaires, eux, mettent le dawa dans les beaux quartiers. On a d'abord cru à une mauvaise blague, mais même le Figaro s'est ému de la vulgarité des chahuteurs venus cette semaine protester contre la construction d'un centre d'hébergement d'urgence en lisière du bois de Boulogne. Leur mot d'ordre, le bois, oui, la jungle, non, ou quand la réalité dépasse la caricature. Vous en avez tous entendu parler en cours, mais qu'est-ce qui s'y est dit en long ? Charlotte Perry y était pour recueillir les doléances des défavorisés, défavorisés contre les défavorisés. On veut mieux que cela, criaient les riches, forcés de regarder là où d'habitude il ne suffisait de détourner le regard. Bref, ce fut un de ces moments où la violence sociale tombe le masque, miroir de ceux qui, inconsciemment ou pas, font tout pour la faire durer. Mais qu'est-ce que ça raconte sur notre société, supposée sans classe, d'individus entreprises, chacun libre de son destin, pour tenter sa chance dans le grand marché ? Antoine Chao est allé à la rencontre de ceux qui ont voulu y croire. Les chauffeurs Uber qui ont essayé ce modèle qui promettait à tous le luxe à bas prix et qui se sont pris dans le miroir aux alouettes. Ce modèle de vie façon Macron, que beaucoup de communicants ont vendu comme une économie du partage en répétant combien les VTC sont une chance pour ceux des quartiers défavorisés, de se prendre en main, mais pas pour gagner beaucoup certes, mais au moins pour apprendre à gagner. Et qui se décrivent aujourd'hui eux-mêmes comme des esclaves d'Uber. Alors pendant que les étudiants continuent de s'organiser, jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, Êtes-vous plutôt haute société ou Uber société ?
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Montil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
L'affichage a fleuri dans les rues du Très-Bourgeois, 16e arrondissement de Paris. Un centre d'hébergement d'urgence en préfabriqué ici, à l'orée du bois de Boulogne.
5 bâtiments en bois qui accueilleront 200 personnes, SDF ou migrants. Ce projet hérisse le poil des riverains qui craignent un sangate en plein 16e.
Il y a d'autres endroits pour les mettre, c'est de la provocation.
Car dans ce quartier se côtoient ambassades et somptueux appartements habités parfois par des personnalités qui ne comprennent pas non plus pourquoi mettre ce camp sous leurs fenêtres.
Nous, on défend le bois de Boulogne, alors allez les mettre ailleurs, hein, c'est bon.
Résultat hier soir, affluence record pour cette réunion publique organisée dans les locaux de l'Université Paris-Dauphine.
Générations que j'habite le quartier, moi. 3 générations, alors j'ai pas besoin qu'on vienne me salir le quartier, là, et tout me gâcher, non ?
Aujourd'hui, le 16e arrondissement ne compte que 8 places d'accueil d'hébergement d'urgence sur 9700 dans la capitale.
Cris, hurlements, vociférations, doigts d'honneur et insultes. La réunion d'information organisée par la mairie de Paris, lundi 14 mars, a dégénéré et tourné à la foire d'Empoigne. Un moment d'hystérie collective comme on en voit rarement. Mais malgré la présence de nombreux policiers, aucune interpellation, ni PV pour outrage et rébellion n'est à déplorer. Car nous ne sommes pas avec des étudiants ou des jeunes des quartiers. Nous sommes entre gens de bonnes conditions. Dans le très chic 16e arrondissement, où au mois de décembre, le Conseil de Paris a voté un projet d'installation de centres d'hébergement d'urgence pour sans-abri, allée des fortifications, en lisière du bois de Boulogne. Depuis, tout le quartier est mobilisé. Rendez-vous compte comment oser. Car des pauvres ici, on n'en voit pas. Aucun HLM et seulement 8 places d'hébergement d'urgence, quand le 20e arrondissement en compte près de 2000. Alors forcément, on a peur, on s'imagine le pire. Les fantasmes d'un nouveau Calais, d'une jungle peuplée d'affamés, de prédateurs, de va-nu-pieds, de migrants, alimentent les récits. Et tous les arguments sont bons pour tenter de s'en débarrasser. Car cette histoire a libéré la parole et a révélé une facette peu reluisante du visage de la bourgeoisie. Une facette d'ordinaire si bien dissimulée sous le vernis des bonnes manières et du savoir-vivre. Un vernis qui, en ce lundi 14 mars, a craqué. C'est donc à l'Université Paris-Dauphine que nous nous rendons. Il est 18h30, lundi 14 mars, et les belles gens se pressent devant l'entrée.
Apparemment, non.
C'est la journée pour les c'est ça?
Oui, oui.
Et on ne peut pas rentrer.
Et le consigne qu'on a reçu.
D'accord.
Je vois que vous êtes venu avec des affiches. Non, pas de jungle dans le bois de Boulogne.
C'est un projet qui ne devrait pas avoir lieu. Regardez ce que fait ma boulangère. C'est un petit amusement.
Votre dans boulangère
sa dans sa boutique. J'ai trouvé ça à midi.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Pain de mie grand, 3 euros.
Pain de mie grand. Des migrants, bon, c'est...
pas de migrants.
J'ai déjà des gens dont les demeures ont baissé en prix.
Ça vous inquiète que le prix des habitations baisse?
Ça m'inquiète, c'est inadmissible. Il y a de la place en France quand même. Ça n'a pas besoin de se passer dans le 16e.
C'est pas notre culture qu'on respecte les Français. Ben non, c'est pas autre chose. Tout ça, c'est lié, monsieur.
Ce sera l'islam, encore une fois, l'islamisation.
Je pense qu'ils ont été mal informés. Hein. Parce que déjà, c'est pas un centre pour les migrants. Il y a un peu tout type de population, des familles, des isolés qui habitent à Paris. Il y a même des gens du 16e, des personnes qui habitent dans les rues dans le 16e aussi, qui seront hébergées, prises en charge dans ce centre. Et c'est un projet pour 3 ans. Moi, je m'appelle Moussa. Je suis là pour soutenir ces familles qui souffrent beaucoup. Tous les ans, il y a des projets qui ouvrent, parce que les bâtiments sont prêtés. Et au bout de 3 ans, hop, on décampe, les gens vont ailleurs.
Vous n'avez pas l'air d'accord?
Je vois que c'est en train de devenir une tribune pour migrants. Ça me déplaît, oui. Ça me défrise.
C'est pas des migrants qui vont être là.
On s'en fout. On veut personne. Tiens, monsieur Blanchard-Dignac. C'est monsieur Blanchard-Dignac.
France Inter.
Eh bien voilà, c'est vous que j'étais venu voir.
Ah.
Venez, on va se mettre un peu au calme.
Il y a beaucoup de monde là qui est arrivé.
Alors je suis étonné, je suis arrivé avec ma bicyclette en prenant la piste cyclable qui va être fermée à la circulation. Et je suis étonné de voir des CRS armés comme si nous étions de dangereux révolutionnaires. Nous sommes simplement des défenseurs du bois de Boulogne. Et donc on dit on ne construit pas dans une zone inconstructible. Donc nous, c'est la coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne. Une association qui réunit 20 associations. L'objet, c'est la défense du bois de Boulogne, qui est un patrimoine qui appartient à tous les Parisiens, qui est un site classé dans lequel il ne faut pas construire. Je me battrais de la même manière s'il s'agissait d'installer une série d'hôtels 5 étoiles pour accueillir les touristes à Paris.
Mais alors ce projet, c'est pas du bétonnage, c'est des algéco, c'est provisoire.
Oui, c'est le provisoire avec la ville de Paris dure, sauf si le combat continue. Et le combat va continuer. Nous avons déjà déposé un recours au tribunal administratif contre la convention d'occupation du domaine public, parce que la route est une route publique. Demain, il y aura des grillages. Donc c'est une privatisation du domaine public. Nous sommes contre la privatisation du domaine public. Nous sommes pour maintenir le bois de Boulogne, ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu de promenade publique.
C'est dans ce poumon de verdure plaqué sur son flanc droit que Paris surpeuplé et surpollué vient respirer le dimanche. Transformé en parc à l'anglaise sur un caprice de Napoléon III, cette ancienne forêt royale a toujours porté le nom de Bois de Boulogne. Depuis toujours, ces 95 km d'allées sinueuses appartiennent aux élégantes qui prennent le prétexte de venir nourrir les cygnes pour y exhiber leur dernière toilette. On y vient en grand et nombreux équipages, et les petites filles apprennent l'écologie et la charité en partageant peureusement le pain de leur goûter avec un des pensionnaires du jardin. C'est que le bois a mille façons de rappeler aux Parisiens qu'il est un petit coin de campagne, un petit coin de bonheur, dans l'immense cité entourée de banlieues à l'infini. Il faut le dire, Paris ne serait pas tout à fait Paris sans son bois de Boulogne.
Vous vous appelez comment?
Didier Barré.
Vous aussi, vous êtes venu pour la réunion pour le bois de Boulogne?
Oui, tout à fait.
Donc c'est une réunion publique
pourquoi,
d'information?
Oui, enfin pourquoi? Tout simplement parce que le camp va être installé à moins de 2 minutes à pied du stade Suchet, du stade de la Muette, de la piscine d'Auteuil, où vont des lycéennes et des collégiennes en classe, tôt le matin à 8h, tard le soir à 18h. Et quand on a vu ce qui s'est passé à Cologne avec toute la prédation sexuelle, on peut être très inquiet pour nos enfants. Et je viens principalement pour cela. J'ai peur pour mes filles.
Enfin, ça va être sécurisé quand même.
Oui, bah, c'est possible. Oui, oui. Ça, vous voyez ce qui se passe à Calais. Je ne sais pas si Calais est très sécurisé, sincèrement. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si les gens qui souhaitent qu'on accueille des migrants ici au Bois de Boulogne, est-ce qu'ils sont prêts à en accueillir chez eux ? Je pense que Mme Hidalgo, elle n'a pas de migrants qui vivent chez elle. C'est facile de faire bénéficier de la charité par les autres quand soi-même, on ne s'y implique pas véritablement.
Je vous entends parler de camp de migrants. Bon, moi, j'ai entendu ce matin le représentant de la mairie disant qu'il s'agit d'un camp pour des SDF et pas pour les migrants. Hein. Confusion règne complètement. Ah, j'ai entendu ce matin sur Radio Classique. Ah oui, c'est pas la même chose.
Hein.
À la limite, je préfère des migrants aux SDF. Ouais, par,
ah bon
entre, moi,
ah
bah je préfère oui. les SDF aux migrants.
Bah, moi, je préfère les migrants, finalement.
Pourquoi ?
Parce que les SDF, à mon avis, soi-disant que ce camp va être créé pour 3 ans. Bien entendu, dans 10 ans, il sera encore là. Et a priori, les migrants, s'ils s'intègrent petit à petit, ils se tiendront mieux, probablement, et leurs enfants aussi, que les SDF. Malheureusement pour eux, je les plains, mais ils sont un peu des épaves de la société et qui ont beaucoup de peine vraiment à s'en sortir. Hein, beaucoup de peine. Qui pratiquement ne peuvent pas s'en sortir, à mon avis. Donc ça sera une espèce de... voilà, d'un ensemble un peu, comment dire, de misère humaine permanente. Les migrants, on peut espérer quand même qu'ils vont avancer. Ils arrivent un peu crasseux, mais petit à petit, ils auront la volonté de s'intéresser, de s'en sortir. Moi, je préfère les migrants. En plus, bon, c'est une claque pour les gens qui habitent là. Vous avez envie de donner, vous, sur un camp de tous les jours, de donner de votre salle de bain, votre salon sur un camp de SDF ? Certainement pas. Je ne sais pas très bien, d'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse, c'est savoir où ça se passe. J'ai toujours pas compris où c'était installé. Enfin, a priori, j'ai compris que ça se passe devant des immeubles où habitent, bon, des gens qui ont des appartements agréables, ils n'ont pas envie de se retrouver... Ça me paraît du bon sens.
Vous appelez comment ?
Pourquoi ? Ah non, je ne veux pas donner mon nom.
Juste prendre... votre prénom, alors ?
Oui, si vous voulez, Gilles, oui.
Là, ça bouchonne, hein. On a du mal à rentrer dans l'université, on est coincé entre les deux portes, il y a énormément de monde.
Pas venir ici pour rigoler.
Hein. Dans les magasins, c'est normal, ils ont raison.
Ah, ben, ça bouchonne parce que c'est... Y a...
C'est la sécurité.
On attend qu'ils avancent, s'il vous plaît.
Bonsoir. Posez-la un sac, monsieur, posez-la.
Bonsoir.
Allez, on est rentré. Amphithéâtre Edgar Faure. Bonjour.
Alors, vous avez les 3 ou 4 premiers rangs qui sont réservés à la presse. Tout ce qui est prise de son, ce sera sur le côté.
D'accord. Mairie de Paris respecte les lois, respectons le bois.
C'est une injonction, c'est un poumon, on a un poumon dans Paris. Pourquoi juste là où il y a le bois et dans une zone qui en plus a été déclarée comme étant une zone protégée ? Ça, on ne respecte pas les lois.
C'est ça qui vous gêne dans ce projet, quoi. C'est...
D'abord, et ensuite la laideur de ce qui est proposé. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit qui est très joli, qui borde le bois, où il y a beaucoup de verdure. Il y a d'autres endroits possibles, je suppose. C'est grand, le 16e.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre nouveau parc à thème dédié au calme et à la paix. Tout est en place pour le début de la saison, c'est comme on aime, tout est propre et bien équipé. Ici, on se distrait sans chahut, on regarde les chrysanthèmes pousser dans le vase de Pépé. Si vous avez de bas revenus, que vous viviez en HLM, dans une vraie poche les jupes, dans une banlieue et qu'en plus vous soyez immigré ou même seulement jeune, vous êtes suspect. Mais ici pas de garde à vue, on perd plus de temps en dilemme, vous êtes direct inculpé. Sous les verrous, toutes les verrues, les tares, les cancres du système, qu'on ne vous voit plus les éclopés. Heureusement qu'on est revenu, sinon la France, un matin blême, se réveillait toute salopée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre nouveau parc à thème, dédié au calme et à la paix.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
L'amphithéâtre est quasiment plein. La réunion va commencer. Qu'est-ce qui arrive ?
Claude Goasguen, député du 16e.
Il est applaudi, hein ? vraie ovation.
Il est élu.
Regardez-moi ces gueules de rêve.
Je connais mes saluts, madame la préfète.
Bonsoir à tous. Je m'appelle Gwenaëlle Daboville. Je vais animer la réunion. J'ai l'honneur de laisser la parole à madame Broca, qui est préfète de Paris et qui va introduire cette réunion.
Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, je suis Sophie Broca, je suis la préfète de Paris, secrétaire générale de la préfecture de Paris, préfecture de région Île-de-France. Alors, les préfets sont chargés par la loi de mettre à l'abri les gens en situation de détresse, de précarité. La devise de la République, c'est de permettre à chacun, au moins, d'avoir un toit au-dessus de lui.
Sans faire de provocation, madame.
Je m'exprime et vous poserez vos questions après, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, madame Broca.
Je poursuis. À Paris.
Provoquer le 16e arrondissement, madame.
À Paris, chaque jour, tout au long de l'année, nous mettons à l'abri 30 000 personnes. Ces 30 000 personnes, ce sont des femmes, des hommes, des couples, des familles, des enfants. Je ne vous parle pas des migrants, je vais y revenir dans un instant. Ces 30 000 personnes, nous les mettons à l'abri dans des centres d'hébergement d'urgence.
Mettez-les à Calais.
Il y en a 78. Enfin bon, moi j'arrête de parler. Si
oui, c'est ça, vous... arrêtez. Arrêtez.
Donc je disais qu'il y a 78 centres d'hébergement d'urgence dans Paris et que pour autant, nous n'arrivons pas à faire face à toute la demande. La ville de Paris nous a proposé un terrain qui lui appartient et pour nous, il n'y avait pas de raison de s'y opposer dès lors que le projet qui était projeté sur ce terrain remplissait toutes les conditions. Donc nous avons...
Inconstructible! Dehors! Dehors!
Alors, quelles sont ces conditions? Mais laissez-moi aller jusqu'au bout!
Non!
Vous criez là!
Non! Dehors!
Alors,
asseyez-vous là, on attend.
Il est un fou furieux!
Je poursuis.
Là, il reste des places.
Donc, est-ce qu'il est interdit de construire dans un site classé? Non.
J'étais assise à côté de lui, il s'est mis à hurler, à insulter la préfète, là. Il m'a menacé avec son poing, il m'a insulté. Mais il faut qu'il sorte, Attendez. Mais regardez, il vient de me faire un doigt d'honneur. Mais enfin, c'est quoi de mon ton,
moi. Il n'y aura pas de migrants, il n'y aura pas de personnes venant de Calais ou d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Gosgel, si vous pouvez me dire quelques mots.
Merci madame la préfète. Simplement, je voudrais me dire que, très franchement, nous mettre devant le fait accompli est une mauvaise solution. C'est un diktat. Vous avez employé une méthode qui n'est pas admissible. Dans une ville où il y a des élus. Tout ce cinéma qui consiste à dire... Le 16e arrondissement n'est pas solidaire. Le 16e arrondissement n'est jamais solidaire. Tout ce cinéma ne tient pas debout. Le vrai problème, c'est que vous avez décidé tout seul. Quand M. Bartolone traitait Mme Pécresse de race blanche de Versailles, vous avez décidé de frapper le bourgeois sans nous demander notre avis. Vous avez tort, car c'est une très mauvaise méthode. Alors, en réalité, le Bois de Boulogne n'est pas constructif. Après, on vous a dit 5 ans, non, 3 ans. Mais après, on verdira. Mais je vous le dis franchement, verdissez tout de suite. Ça sera beaucoup mieux. Nous ne laisserons pas faire.
Tout d'abord, M. Hanoun, qui est l'architecte du projet, qui va vous présenter le projet dont il est question.
Vendu !
Voici donc le gabarit du projet vu côté Bois de Boulogne. Donc le projet s'arrête ici au premier étage pour laisser passer les arbres.
Et on gagne 1,2 million d'euros en 3
d'agents, 1,8 million pratiquement d'agents. Avec des grilles en plus, c'est merveilleux. Un goulag à Paris.
Ils sont dans le même matériau.
Bravo avec des grilles, un goulag.
Mesdames et messieurs, j'ai pas l'habitude. Monsieur, je suis président de cette université. Je suis votre oncle. Alors il y a un minimum de respect. Vous êtes 800 dans cet amphithéâtre. Monsieur, je ne suis pas le stade Jean-Bouin. Si vous voulez mettre 20 000 personnes dans un endroit, vous allez ailleurs. Mais je vous accueille. Je vous accueille et c'est la réponse que vous me faites.
Il y a des gens partout dans les couloirs, touche pas à mon droit, nous au centre d'hébergement.
Je ne suis plus garant de la sécurité. Dans ces conditions, ma responsabilité c'est de dire, et je l'assume, que cette réunion s'arrête à l'instant présent. Je vous demande d'accord.
Dehors. Il nous dit de partir.
C'est le président de l'université, là ?
C'est lui qui a accueilli la réunion. On est au moins 1500 personnes et il y a 700 personnes admissibles dans l'amphithéâtre. La sécurité, elle était très compromise dans les escaliers où on était 500 les uns contre les autres dans les escaliers.
Ah, vous venez des escaliers ?
Oui.
Quoi, la sécurité ?
Oui,
la sécurité n'est pas engagée, ils y connaissent rien. Moi, je connais. Ah, j'ai fait 20 ans dans la sécurité. La sécurité n'est pas engagée. De toute façon, pourquoi le président de l'université prend la parole ? Ça ne le regarde pas.
En tous les cas, bravo pour le discours de morale, c'est vraiment pas le lieu. Hein. Comme si les gens du 16e étaient tous des méchants, des brutes, des égoïstes. On sait très bien qu'on ne peut pas accueillir tout le monde et loger tout le monde.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de l'ambiance ce soir ?
Oh bah, c'est détestable. Hein. Une telle réaction, c'est hors de propos.
Vous appelez ?
Dominique Bordin, de la mission sans-abri de l'Hôtel de Ville. On a ouvert une dizaine de centres d'hébergement cet hiver. C'est la première fois qu'on voit ça. Dans le 15e, ça n'a pas été simple. Hein, mais là, franchement, c'est complètement disproportionné. Hein. C'est une espèce d'hyper-réactivité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'incident notable qui est émaillé. C'est ça, le fonctionnement de ces centres. Et ça devrait quand même permettre de rassurer les gens, mais à condition de pouvoir échanger et dialoguer. Mais là, ce n'est pas le cas, hein, visiblement.
Il y a combien de centres d'hébergement d'urgence sur Paris ?
On en a une centaine, hein, en réalité. Mais avec un gros déséquilibre entre les arrondissements de l'Est parisien, où il y a beaucoup de centres d'hébergement, et puis les arrondissements de l'Ouest, où il y en a peu. Je pense que c'est une peur de l'inconnu, hein, précisément.
Il y en a mère des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Il y en a mère des pauvres. Et s'il y avait un peu moins de pauvres, ben y aurait pas toute cette misère. Plein, 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 y en a trop, y en a plein. Plein, 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 y en a trop, y en a plein. Plein, 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 y en a trop, y en a plein. Plein, 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 y en a trop plein le cul.
Vous allez voir, il va y avoir un véritable mouvement citoyen de grande ampleur.
Vous appelez comment ?
Jean-Pierre.
Jean-Pierre, et vous faites partie de quelle association ?
ARBB.
L'association des riverains du Bois de Boulogne.
Voilà. On paye beaucoup d'impôts dans le 16e arrondissement. On est en colère, on est en mouvement de protestation parce qu'on est provoqué par la mairie de Paris. Il crée un climat délétère, un climat de guerre civile. Moi, je dis les mots. Et les choses vont très mal se terminer.
Et là, la réunion de ce soir, c'était un peu particulier.
Mais c'est un début, la réunion.
Personne n'a pu s'exprimer.
Mais c'est dans tout Paris, c'est pas le 16e. Le 16e sera peut-être le fer de lance de la révolte à Paris et puis ailleurs. On va pas se laisser manger. On va pas se laisser égorger. On s'en fout. On va pas lâcher l'affaire. Ils refusent de parler.
Vous plaisantez, là ? Mais enfin, vous avez vu, c'était impossible de parler. Même le président de l'université,
oui,
qui n'est pas la mairie de Paris.
Il y a toujours.
Ah non, non, j'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ça. Je trouve que c'est vraiment une.
Les gens d'ici sont mal polis.
Ah oui, mais vraiment, vraiment. J'habite le 16e. Donc voilà, bah, j'aimerais qu'il y ait une autre voix aussi du 16e.
Ouais.
Mais franchement, c'est honteux. Vous êtes fiers de dire ça ? À votre place, moi, j'aurais honte.
Vous avez qu'à en prendre, vous. Commencez par en prendre.
Mais ça veut dire quoi, ça ?
Nous, on défend le Bois de Boulogne. Alors allez les mettre ailleurs, hein, c'est bon.
Vous vous appelez comment ? Esther. Ils estiment que si on habite le 16e, on ne peut être que des fachos comme eux, quoi.
ces gens-là, ils veulent bien donner à des associations et que les choses se passent loin de leurs yeux. C'est scandaleux. Et ils le disent ouvertement, ils ont libéré une parole qui me fait froid dans le dos.
Mais non,
Donc moi, ce que je déplore, c'est que moi, je suis venu pour être informé en tant que riverain, et je m'aperçois que ça a été transformé par les riverains en une manifestation contre. Je suis contre, et évidemment que je suis contre. J'habite à côté, et évidemment que je suis contre, mais j'aurais voulu aussi être informé.
Vous appelez comment ?
Je m'appelle Roger Kalmanovitz.
Vous étiez dans quel domaine, vous m'avez dit ?
Relations internationales et assurance des risques spéciaux.
Alors, il y avait des personnes qui étaient inquiètes par rapport au prix de l'immobilier ?
Elles ont raison d'être inquiètes parce que ça a déjà chuté, en partie à cause de ça. Entre la porte de Passy et la porte d'Auteuil, le prix du mètre carré a chuté. Depuis aussi, une deuxième raison, c'est qu'il y a deux immeubles de 10 étages pour 190 logements, 200 familles avec crèche et parking, boulevard Suchet, qui sont en train d'être construits.
Les logements sociaux ?
Les logements sociaux. Ces deux facteurs font que nous étions plus ou moins à 10 000 euros du mètre carré il y a encore un an. Et aujourd'hui, quand on peut vendre 8 500, on peut être content. Alors vous voyez, ça fait beaucoup. Ça fait 15%. Il n'y a pas matière à descendre dans la rue avec des fourches. Mais il y a matière à savoir pourquoi et est-ce bien utile pour 200 personnes. Moi, j'ai voté à gauche. Parce que j'ai toujours voté à gauche. Et voilà, on se retrouve avec le problème.
Oui, c'est quoi ? C'est le soviet de Paris.
C'est ça, oui. C'est le soviet de Paris. À nous imposer des choses, vous comprenez, sans nous demander, c'est pas la démocratie, ça.
Vous habitez loin, vous, de l'allée des fortifications ?
Non, je suis à côté. Bah oui, je suis boulevard Suchet. À côté. Il y a d'autres possibilités.
Il faudra voir ce que pensent les ambassades et organisations internationales, tout ça.
Oui. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas contents. Mon mari était ambassadeur.
Ah, oui. Ambassadeur.
Oui. Non, je suis à la retraite maintenant depuis un bout de temps.
Oui, on a été à Moscou d'ailleurs.
Dans les pays de l'Est. Je connais le système. Alors, quand on nous envoie un merdeux comme le type de Paris, là, le communiste.
Yann Brossa.
Oui, oui. Qui ne mériterait même pas d'être élu. C'est une pièce de musée, les communistes. On nous impose la lutte des classes. Mais d'ailleurs, dans la lutte des classes, d'abord, il faut avoir de la classe. Et quand on n'a pas de classe, comme les cocos du soviet de Paris, on ne se présente pas.
Est-ce que vous trouvez que c'était très classe, la tenue de la réunion ce soir ? Parce que...
Mais c'est une réunion de désinformation.
Il y a trois générations que j'habite le quartier, moi. Trois générations. Alors, je n'ai pas besoin qu'on vienne me salir le quartier, là, et tout me gâcher, non ?
Je suis pauvre et je pue la gueule. J'ai l'air un peu starbé de la tête. C'est le manque d'amour qui rend fou. La braguette ouverte sur le monde. Et même que je lui pisse dessus, moi quand je pleure c'est même pas bon. Ça se mélange avec la mort. Et j'ai pas de mouchoir, c'est rien que des larmes de poivron. Ça se mélange avec la mort. Et j'ai pas de mouchoir, c'est rien que des larmes de poivron. Un jour je vais en attraper une de ces pétasses qui passe. Une belle qui transpire le savon. La braguette ouverte sur le monde. Et même que j'y pisse dessus, moi quand je pleure c'est même pas bon. Ça se mélange avec la mort. Mais j'ai pas de mouchoir, c'est rien que des larmes de poivron. Mon sale sang à la gueule. Allez.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
J'habite dans le 16e. J'étais comédienne, grand premier rôle. Mais j'ai pas fait de carrière parce que je voulais avoir des enfants. Dans le 16e pour se nourrir, c'est pas n'importe quoi. Il y a des produits de qualité, mais ça coûte cher. Alors les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est pas un endroit fait pour ça. Ils vont pas être heureux. Vous savez qu'à un moment donné, il y avait une association des gens qui invitaient pour Noël des gens défavorisés pour leur faire passer un bon Noël. Pourquoi ça s'est arrêté ? parce que ces gens ont vu autre chose qu'ils ne connaissaient pas. Ça les a rendus dingues, ça les a rendus malades, dépressifs. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Toute ma vie, j'ai aidé des cancéreux, des orphelins, des enfants qui n'avaient rien à manger. Quand j'étais petite à l'école primaire, je piquais les beaux vêtements que j'avais chez moi pour les distribuer à des gens qui vivaient dans une usine désaffectée, qui étaient des romanos, qui n'avaient rien à se mettre sur le dos. Il faisait froid l'hiver. J'ai demandé à ma mère, est-ce que tu me donnes ce manteau? Non, elle m'a dit.
Alors, je ne comprends pas pourquoi vous me parlez de la générosité, de votre famille, etc. Et là, ce sont...
Vous croyez que ça va être généreux que mettre des gens qui vont souffrir parce qu'ils vont avoir sous les yeux, tous les jours, des magasins avec des belles marchandises chères, qu'ils n'auront pas les moyens de s'offrir? Vous croyez que ça va être généreux, ça? Vous croyez que ça va les rendre heureux? On a toutes les nuits des gens qui viennent vider les poubelles pour se nourrir. C'est pas possible que ces gens-là puissent vivre là. Il y a d'autres endroits pour les mettre, c'est de la provocation, parce que ce sont des bourgeois qui habitent le 16e. Mais si on a quelque chose, c'est qu'aussi on a économisé, on a bien travaillé, on n'a rien volé à personne.
Vous pensez que c'est une attaque de classe, en fait ?
Oui, tout à fait, absolument. On paye des impôts, et pourquoi est-ce que nous, on est traités de cette façon ?
Bonjour.
Bonjour.
Oh,
bonjour.
Quel dommage.
Pourquoi?
Parce qu'on n'a pas pu s'exprimer.
Ils sont membres de mon association.
Alors, on va avoir une mauvaise étiquette, alors que vraiment, il y avait pas mal de gens âgés.
Moi, je crois qu'il y avait des éléments perturbateurs là, dans l'histoire.
Ah oui, il y avait des gens de la gauche.
Absolument. Tout le monde attendait cette réunion.
Oui.
C'est pas possible. Il y a plein de gens qui étaient là pour créer des problèmes, comme dans toutes les manifs.
Vous pensez aussi?
Ah oui. Parce que quand même, on est du 16e, on n'a peut-être pas d'argent. Les gens qui ont de l'argent sont partis, toutes mes amies sont partis.
Sont partis à l'étranger.
Mais oui, ils sont partis à l'étranger. Nous, on n'a pas d'argent. Alors on a quand même une éducation, nous. Les autres, on en a moins. C'est vrai.
Les autres
Ceux qui ont perturbé. Je pense qu'il y a des
gens
éléments.
Du 16e. Si
qui ont des gens de la gauche, on ne sait rien. On va leur mettre ça sur le dos.
Mais vous êtes favorable ou pas à ce projet
de... Ah non, mais non, nous sommes contre. J'ai 9 petits-enfants qui vont à la piscine, qui n'ont aucune sécurité, il y aura des viols, il y aura des vols, par définition. On va en avoir 150, on va en avoir 300.
C'est une histoire de sécurité, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Vous appelez comment ?
Masson. Mon père était général, il est mort. Il serait ulcéré de voir ce qui se passe.
T'as vu Pierre-Henri ?
Non.
Au revoir. Ah, bonjour Monique. Alors Monique Pinson-Charlot, vous étiez là à cette réunion?
Oui, je suis venue parce que c'était une situation tellement extraordinaire par rapport à nos enquêtes, c'est-à-dire ces moments où la bourgeoisie se mobilise contre le dissemblable, contre l'autre. Alors c'est à la fois contre l'autre et pour préserver leur entre-soi à tout prix. Et cet entre-soi résidentiel est absolument vital pour la reproduction et la transmission de leurs privilèges et de leurs pouvoirs qui sont arbitraires. Vous êtes né à Neuilly ou dans le 16e et pas à Bobigny ou dans le 20e. Et pour ça, il faut absolument à tout prix éviter la mésalliance. Et donc, il faut que les enfants soient éduqués, grandissent dans l'entre-soi le plus pur possible. C'est-à-dire une bulle totalement préservée, une bulle ethnique, une bulle de classe totalement préservée. Et ça, c'est très important, que ce soit au niveau du quartier, au niveau des écoles, à tous les niveaux de la vie. Et du coup, la conséquence que ça a, c'est que ça permet de créer le sentiment d'impunité. Puisque vous êtes toujours avec vos semblables, vous avez vu là, ils étaient assurés d'eux-mêmes, ils étaient sûrs d'avoir raison, d'être lésés, ils se sentaient autorisés tous ensemble à être irrévérencieux par rapport au président de l'université qui accueillait, par rapport aux autorités politiques avec lesquelles d'habitude ils sont entre camarades de classe. Bon, ben là, il y a quelquefois des...
La préfète de les...
Voilà. Donc, cette impunité, elle est très importante. Parce qu'après, ça leur évite de se vivre comme des prédateurs, comme des délinquants quand, par exemple, ils fraudent le fisc, comme des gens qui exercent de la violence sur les autres classes sociales, sur les plus pauvres... Tout cela, ils en sont responsables collectivement. Et donc c'est collectivement qu'ils doivent s'en défendre et c'est collectivement qu'ils doivent se protéger. D'où cette espèce de solidarité que vous avez bien dû sentir ce soir, qui était une solidarité très inquiétante, j'ai trouvé. C'était pas de la colère. Nous, quelquefois, on est en colère dans nos manifestations. Hein, quand trop c'est trop, on est en colère. Mais là, c'était de la haine, une colère qui déraillait. Et c'est très difficile d'avoir du coup une discussion sereine. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un contexte en ce mois de mars 2016 d'une tension politique, sociale extrême. Et donc je pense que ça s'est passé comme ça aujourd'hui parce que le 31 mars s'annonce, parce qu'ils sentent très bien qu'il va se passer quelque chose, quoi. Tout le monde le sent et eux le sentent. Et nous, avec Michel, en 1995, on était au cœur de nos enquêtes et on avait très bien senti cette tension. Très bien.
Amis du saucisson, bonsoir. On va vous parler du grand soir. On va vous expliquer pourquoi il faudrait manger les bourgeois. C'est une solution radicale pour un monde un peu moins bancal. Oh, voyez-vous, les riches sont des cons, je peux vous le dire, je suis de la maison. Je n'ai rien contre le pognon, c'est super pour les commissions. Pour le produit national brut, et quand on est sous pour les putes. Avec des talbins plein les fouilles, on peut pas vous casser les couilles. Mais quand la banque fait des conneries, y'a plus un radis, c'est fini. Et ils se retrouvent à la rue, sont pas fichus de bouger leur cul. Ils ont jamais rien fait de leurs 10 doigts. Forcément, ça rend maladroit. Amis du saucisson, bonsoir. On va vous parler du grand soir. On va vous expliquer pourquoi il faudrait manger les bourgeois. C'est une solution radicale pour un monde un peu moins bancal. On va les faire aux petits oignons, gardez-moi les filets mignons. Voyez-vous, les riches sont des cons, je peux vous le dire, je suis de la maison. Voyez-vous, les riches sont des cons, consultez-moi pour la cuisson.
Et à lire pour en savoir plus les ouvrages des sociologues Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, La violence des riches et les ghettos du Gothard. Et tout de suite, on part sur un autre front, l'ubérisation de nos vies, l'avenir façon Macron.
Comme un bruit qui court sur France Inter.
Me voilà de nouveau au volant, à tes côtés, tout est permis. Tout le monde est même roulé, sans essuie-glace, sous la pluie qui bat, tout phare éteint dans la nuit noire.
Vous souhaitez exercer le métier de chauffeur, gagner de l'argent en toute simplicité avec Uber. Vous conduisez quand vous le souhaitez, sans aucune contrainte, de façon libre et flexible. Devenez chauffeur avec Uber, inscrivez-vous maintenant. Nous sommes engagés dans une bataille politique. Notre adversaire est un connard qui s'appelle Taxi. Travis Kalanick, 37 ans, fondateur et patron d'Uber.
Oui, une bataille politique et de choix de société aussi. Quand lycéens et étudiants sortent dans la rue contre la loi Macron, les chauffeurs de taxi occupent aussi le bitume contre l'ubérisation de l'économie. Une économie disruptive qui renverse le modèle en place et les acquis sociaux qui vont avec, acquis de haute lutte. Uber est une figure emblématique de cette nouvelle économie du partage, un hypercapitalisme débridé par les nouvelles technologies qui ne satisfait pas tout le monde, ni les taxis, ni d'ailleurs les chauffeurs de VTC eux-mêmes qui travaillent pour Uber. À ceux qui veulent ubériser le monde répond résistance. Vous êtes venu accueillir Mickaël, donc, qui est lui un taxi espagnol.
Alors Mickaël, il est venu de l'Espagne, de Bilbao, à vélo, pour aller déposer un dossier à Bruxelles pour dénoncer ce qui se passe dans le monde entier à cause de la ubérisation des professions. Il y a des pharmaciens qui sont passés par là, les notaires sont passés par là, les auto-écoles sont passées par là. Sauf que c'est pas Uber qui les a attaqués, mais c'est le même système qui les a attaqués. Et ils n'ont rien pu faire. Et nous, on se défend pour arrêter cette arnaque. Alors moi, je suis locataire, je me défends au quotidien. Ça fait à peu près 7 ans que j'exerce cette profession. J'ai voulu acheter il y a 2 ans, mais vu la précarité du métier, je me retrouve dans une situation ambiguë où je ne sais pas si je dois acheter ou pas.
Donc acheter, c'est-à-dire ?
Acheter la licence de taxi. Aujourd'hui, cette licence a vachement diminué parce que vu la peur des chauffeurs d'acheter, alors du coup, elle est descendue aux alentours de 150 000 euros. Mais il y a à peine un an, elle était à 240 000 euros. Et je peux vous dire, bon, moi, dans mon cas, je suis locataire, je dois travailler pour pouvoir payer la location de la licence et de la voiture. Mais dans certains cas qui sont artisans, eux, ils sont pris à la gorge par un crédit. Moi, j'aurais pu, du jour au lendemain, arrêter le métier et faire autre chose parce que je ne suis pas engagé. Mais moi, je suis quelqu'un qui adore mon métier. Alors, je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à l'os.
À ceux qui veulent ubériser la France, les taxis répondent résistance.
Je viens de Bilbao pour sauver mon travail et ma vie, puisque ma vie dépend de mon travail, et pour lutter contre les applications déloyales qui sont disruptives et qui sont en concurrence avec les taxis, et surtout aussi contre le TAFTA, le traité commercial de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, qui va fracturer nos vies à plusieurs niveaux. Ça va précariser le travail, fragiliser la fiscalité, réduire la souveraineté des pays, et ça va autoriser la fracturation hydraulique en plus, pour le gaz de schiste. Et beaucoup d'autres choses qu'imposera le TAFTA qu'on ne connaît pas encore. Donc je vais à Bruxelles pour expliquer les problèmes que pose au taxi ce traité, le TAFTA, et les applications qui se disent collaboratives mais qui veulent déréguler le secteur du taxi et utilisent en plus des paradis fiscaux.
Uber en un principio estuvo funcionando 6 meses en España de la mano de gente particular.
Uber a fonctionné d'abord pendant 6 mois en Espagne, façon Uber Pop, pour les chauffeurs particuliers. Le tribunal de commerce l'a interdit. Et maintenant, ils essayent de recommencer avec les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Et régulés ou pas, on n'en veut pas. Parce qu'ils brisent le pays, ils détruisent les économies, le bien-être social et le droit du travail. Enfin, ce qu'il en reste.
Injustice.
Là, on est en souffrance, ce taxi. Hein. Le métier souffre. On est attaqué par la concurrence déloyale Uber. Comme un toile noire est tombé sur nous, il nous bouffe à l'intérieur. Pour moi, il y a deux choses. C'est ma retraite est perdue et le social est perdu aussi. Par exemple, nous, on remplit les caisses de l'État. Uber, il prend l'argent et met des paradis fiscaux. Donc, la caisse va être vide. Nous, on remplit les caisses de l'État. J'ai la conscience de ce que je suis en train de faire. J'ai payé pendant 16 ans de mon travail.
Ça fait 16 ans que vous êtes chauffeur de taxi.
Oui.
C'est les taxis qui klaxonnent en passant.
Oui, oui, ils sont contents parce qu'on a, oui.
Je pense que votre bataille, elle est essentielle, non seulement pour vous, mais pour tout un tas de métiers. Et donc, on a une bataille des consciences à mener et à continuer.
Sans aucune contrainte, vous construisez votre propre emploi.
C'est une tempête, une furie, un cyclone, un jour de pluie. Une silhouette, un tsunami, une icône. J'en oublie comment je m'appelle, qui je suis, les hirondelles et leur nid. Demain et tout ce qui me suit. C'est une bombe.
C'était quoi le slogan tout à l'heure? C'était El taxi, los taxis, unidos, jamás será vencidos. Taxi, unidos,
jamás será vencido.
Alors on en avait nous un autre slogan, c'est à ceux qui veulent ubériser la France, les taxis répondent, résistance.
Merci Madame Simonet.
Alors Daniel Simonet, les taxis c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg de l'ubérisation
exactement.
De la société.
C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit. Là aujourd'hui, donc c'est d'abord la première profession qui prend de plein fouet cette déréglementation sauvage, qui est vraiment la nouvelle forme du capitalisme mondialisé et qui utilise les nouvelles technologies pour finalement faire le projet, in fine, de la loi El Khomri, c'est-à-dire se passer du code du travail et faire croire qu'on est dans un système où il y aurait un travailleur libre, dans un marché libre et avec des plateformes qui mettraient juste en relation un consommateur et un travailleur qui est sommé dans le cadre d'un statut de travailleur auto-entrepreneur qui gagnerait comme ça plein de travail grâce à ce gentil Uber. Et en fait, derrière ça, Uber ne paye pas ses impôts en France, envoie tous ses bénéfices sur les paradis fiscaux, s'affranchit donc de ses obligations fiscales et s'affranchit de ses obligations d'employeur, puisqu'il n'est qu'une plateforme qui met en relation, mais qui ponctionne complètement le chauffeur des VTC, qui vient sur un métier où il ne respecte pas la réglementation, puisque ce sont deux métiers différents, taxi et VTC. Aujourd'hui, cette ubérisation s'attaque au transport à la personne, mais d'ores et déjà, il développe des services à domicile, pour envoyer des produits frais, pour faire des déménagements, des choses comme ça. Et par exemple, aux États-Unis, vous avez d'autres types de plateformes qui avaient travaillé aussi sur l'aide à la personne, par exemple. Ce qui est intéressant, heureusement, c'est que les travailleurs ne s'en sont pas laissés compter. Et sur l'aide à la personne, les travailleurs avaient bataillé pour obtenir leur requalification en salariés. Parce que justement, ils ont dit, mais finalement, nous sommes dans un rapport de subordination avec cette plateforme. Nous ne sommes pas des travailleurs libres, puisqu'ils fixent nos tarifs. Puisqu'il fixe ce que l'on doit faire, il faut obtenir cette requalification. Et pourquoi je fais le lien avec la loi El Khomri, c'est que dans la première version de la loi El Khomri, vous avez un article, article 23, sur mesure pour Uber, puisqu'il était prévu de protéger les plateformes pour empêcher les travailleurs de mener la bataille en requalification de salariés. C'est quand même dingue que ceux qui nous dirigent fassent à la prédation de cette nouvelle forme capitaliste très sauvage sont là pour les protéger au lieu de défendre l'intérêt général.
La République.
Et donc c'est bien tous les secteurs qui demain vont être impliqués par cela. D'ailleurs, Macron avait dit, mais pourquoi, par exemple, ça serait bien de proposer à ceux qui veulent de devenir coiffeurs, sans forcément avoir le diplôme. Ouais. Donc il y a une volonté de casse, de remise en cause des qualifications, de l'ensemble des réglementations. Donc il faut absolument que les gens comprennent que c'est d'un intérêt général que de batailler contre l'ubérisation et que les taxis, ils se battent pas simplement pour leur intérêt catégoriel de taxi. Et là, Mickaël, il est très fort parce qu'il fait le lien aussi avec le TAFTA, le TTIP ou le GMT, le grand marché transatlantique. Parce que cette logique-là aussi de grand marché qui casse toutes les réglementations, c'est du pain béni pour ces plateformes type Uber, type Airbnb, type, enfin il y en a plein, hein, voilà, type Amazon. Voilà. Il y a un bouquin qui est génial, hein, parce que moi, je rentrais dans votre sujet à travers au départ d'un bouquin.
Ouais.
Et c'est le bouquin de Laurent Lannes.
Ah oui, la prédation.
La prédation en bande organisée. Parce qu'on sent que c'est vraiment un passionné de taxi qui maîtrise l'histoire.
Voilà.
Bon, bah, merci à vous. Bon courage.
Laurent Lannes, je suis écrivain et en même temps je suis secrétaire de rédaction de la Revue internationale de l'économie sociale.
Là vous avez écrit Uber, prédation en bande organisée.
Oui, parce que ça me paraît être ce modèle aujourd'hui dont on parle beaucoup. Et quand on entend parler de l'innovation technologique, d'abord c'est pas extraordinaire l'application d'Uber. Et en même temps, ça recycle l'économie numérique, recycle des usages. Elle ne crée pas de valeur en tant que telle, si ce n'est de la valeur actionnariale. Donc sur la question de l'innovation sociale, on pourrait se poser la question du modèle Uber qui est à rebours de tout ce qu'on a pu penser dans ce domaine. Et en effet, on a longtemps pensé la question de la valeur de la personne et de la nécessité, de la primauté de la personne sur le capital, sur le travail. Et on voit bien aujourd'hui que, pour une raison qui, pour moi, est tout à fait étonnante, que sur ces questions-là, un gouvernement de gauche qui devrait avoir le souci de la primauté de l'homme sur le travail et le capital est en train de céder à une multinationale américaine. Petite parenthèse, l'association UFC Que Choisir a relevé dans les contrats d'Uber 22 clauses illicites ou abusives. Bon, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est l'avant-projet de loi El Khomri sur le travail, avec cet article 23 actuellement sur la manière dont va s'organiser la relation entre les plateformes numériques et les chauffeurs d'Uber. C'est un article, si vous voulez, qui pose le principe que de toute façon, cette relation ne peut pas être une relation salariée, c'est-à-dire c'est garanti dans l'article. Comme si on se servait de ce qui s'est passé aux États-Unis avec la commission de travail de l'État de Californie qui avait dit que Uber ne peut pas être simplement un éditeur d'applications comme Uber veut l'être, mais qu'il intervient dans toute la chaîne de l'opération. On s'est servi de l'exemple américain avec les procédures qui ont lieu aux États-Unis d'indépendants qui veulent se faire reconnaître comme salariés. Et le modèle français, à travers cette loi, est en train d'entériner l'idée que, de toute façon, celui qui aura une relation avec une plateforme numérique ne pourra pas se prévaloir du statut de salarié. Alors, il reste évidemment la jurisprudence. Je pense que les juges ont la capacité de créer du droit et qu'ils vont retoquer cette approche-là. Mais ça montre la puissance du lobbying politique du beurre.
Chez Uber, on réfléchit dès aujourd'hui au transport de demain. Parce qu'à la vitesse à laquelle on avance, il va nous falloir du monde pour chouchouter nos millions d'utilisateurs, mais aussi tous nos chauffeurs.
En fait, si vous voulez, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que lorsqu'on entend les dirigeants d'Uber, on a l'impression que ça va créer de l'emploi. Alors ça n'en crée pas, ça crée de l'activité tout au plus. Encore une fois, ça crée de la valeur actionnariale, ça c'est certain. Et que tout ce qu'on observe, c'est de la précarisation. Les chauffeurs d'Uber eux-mêmes qui se mettent en révolte parlent de ça. Mais on comprend que le modèle soit attractif pour des investisseurs. Pas d'impôts, pas d'immobilisation et demain pas de chauffeur. Donc c'est évidemment un modèle économique, de profitabilité qui peut séduire des investisseurs. Mais c'est pas le modèle, je pense pas que ce soit le modèle qui soit un modèle social que les gens aient envie de vivre, quoi. C'est un contrat de dupe en quelque sorte, puisque de toute façon l'objectif du beurre c'est de faire du profit et le maximum de profit. À partir du moment où on maquille cet objectif en disant on va créer de l'emploi, c'est un faux semblant moral. La deuxième observation, c'est qu'à terme, de toute façon, Uber a débauché un certain nombre de chercheurs du département de robotique de l'université de Carnegie et travaille activement sur la voiture sans chauffeur. Donc ça veut dire que dans quelques années, on ne sait pas encore exactement quand la voiture autonome arrivera, et elle arrivera, on n'aura plus besoin de chauffeur. Donc on est en train de vendre quelque chose à des gens en disant on va créer de l'activité, vous allez voir, vous allez avec nous, vous allez gagner votre vie, et qu'à terme, de toute façon, quand on n'aura plus besoin d'eux, on les laissera sur la touche.
Oui, enfin bon, bref, c'est surtout qu'avec Uber, en deux clics, vous êtes transporté où vous le souhaitez par un chauffeur sélectionné. Ah, du coup, maintenant, vous aussi, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
C'est le moment jamais de devenir chauffeur avec Uber.
Alors ça y est, là, il y a toutes les voitures noires qui arrivent.
Voilà, vous voyez les voitures. Celle-là, ça coûte 46 000 euros. Et c'est le mec, je te dis, le Mercedes, il a envoyé un convocation pour qu'il paye 5 000 euros parce qu'il a pas payé il n'arrive pas à payer à 7 mois. C'est celui-là qui est en train de descendre. Ah,
VTC en colère, ça y est, tout le monde arrive.
C'est ça.
Un VTC, déjà, il marche pas au compteur comme les taxis. C'est du transport, c'est même pas une question de tarif, c'est du transport qui est plus entre parenthèses, c'est du luxe qui a été rendu par les applis à bas prix. C'est du luxe qui est devenu à la portée de tout le monde. Alors qu'avant, un transfert à aéroport par exemple avec un VTC, vous le prenez et ça va vous coûter 90 euros minimum. Au jour d'aujourd'hui avec les applis, ça vous coûte plus rien. Ça vous coûte encore moins cher qu'un taxi.
Avec les applications, c'est ça.
Exactement. Ouais.
Et pourquoi ça a baissé?
Ça, faut voir avec tonton Hubert le milliardaire.
Ah, tonton Hubert, ah oui, bah d'accord. Oui.
Avant déjà, quand ils ont le prix normal à 8 euros, il a des problèmes avec la famille.
Avec la famille?
Ouais. On ne voit pas les enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont divorcé avec leur femme parce qu'on travaille beaucoup.
Combien d'heures vous travaillez?
Il y a des chauffeurs qui dorment dans la voiture.
Hubert Pop, quand il est arrivé, il a détruit le système en fait. Et ça a créé des tensions et voilà, on est arrivé au point où presque on se fait la guerre entre nous alors qu'on est tous là, taxi comme VTC, pour gagner notre pain.
L'État, elle doit bouger avec Uber parce qu'elle bouge avec nous, les travailleurs. Ceux qui peuvent pas contester, mais ils doivent vraiment voir une solution avec Uber, avec les applis, pour soit limiter les chauffeurs, soit trouver une solution. Quoi. Voilà, parce qu'on peut pas recruter sans limite des chauffeurs. Et nous, on investit dans des voitures qui sont luxueuses. Et après, on passe une journée à gagner 20 euros.
Vous prenez un client à 4 euros. Il vous demande de sortir, d'ouvrir la portière. Il faut avoir des bonbons, il faut avoir de l'eau. On est perdant. Moi, j'ai déjà pris 4 clients. Dans la voiture, il m'a pris toutes les bouteilles d'eau. Il m'a pris tous les bonbons.
Moi, il m'est arrivé une fois. J'ai pris 4 personnes. Ils m'ont dit... Une bouteille d'eau, ils disent c'est obligatoire. Et j'ai les collègues, ils ont copié leur compte pour une bouteille d'eau.
Oui,
ils ont perdu leur compte parce que le client s'est plaint.
Oui, il s'est plaint. Uber, il coûte
le compte direct. Le client vous note. Uber ne veut pas savoir pourquoi le client vous a noté. C'est aberrant.
Ah, c'est pas nous des chiens. Là, on est des esclaves.
Les esclaves d'Uber, quoi.
Voilà, tout à fait.
Dans tous les sons et dans tous les sens, c'était comme un bruit qui court. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur le site franceinter.com. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux. Juste après les infos, vous retrouverez l'Esprit Inter avec Mathias Degel et nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain à 16h.